magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
En remplacement aujourd'hui du collègue Claude Fournel, une star de la vidéo qui, que voulez-vous, hein, quand on est une vedette, on est une vedette. On reçoit aujourd'hui Mario Frégon, maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, Josiane Forêt, mairesse de Saint-Jacques, qui nous parlera d'une exposition dédiée à Bernard Landry. Steve Mador, il est maire de Saint-Sulpice. Il y a des projets de fusion des polices là-bas. Pierre Paquette vient nous parler de la Coalition Avenir Québec, du NPD et de la retraite du président d'Air Canada. Et on aura Patrick Capolupo, qui est dirigé par intérim du Centre de services scolaires des affluents au Centre d'éducation aux adultes. Mesdames, messieurs, bonne émission. Bon, ben on va régler quelque chose tout de suite. Pépère est bien énervé. Il fait longtemps qu'il n'a pas remplacé Claude. Il y a beaucoup de choses à faire. La circulation, la pieuvre, puis tout ça. Puis il y a Céline Dion qui est bien contente. Écoutez, la madame est contente. Ben là, elle va peut-être faire des annonces à Walmart avec ça. Bon, contrairement aux affirmations des porte-parole d'Hydro-Québec, aucune consultation n'a été menée en regard de la décision d'implanter éventuellement un poste de transformation par Hydro-Québec à Saint-Gabriel-de-Brandon. Le projet doit être doublé par le passage d'une ligne à haute tension vers le sud et possiblement une autre vers le nord. J'ai eu le privilège de rencontrer le maire Mario Frégon ce matin. Il était pas content, mais pas content pantoute. Alors, vous allez vous en rendre compte avec cette entrevue de Mario Frégon.
Lanaudière PM, environnement.
Comment vous avez appris ça? Racontez-moi un peu votre histoire de la semaine dernière.
Disons, j'étais avec ma DG une heure avant de rencontrer les autres municipalités qui étaient Saint-Norbert, Saint-Cuthbert, Saint-Cléophas et nous. Et puis, ils nous ont garoché ça comme une bombe, disant que le Grand Carré, où ils voulaient mettre le futur poste de distribution, qui était, semble-t-il, au départ à Saint-Cuthbert et à Saint-Norbert, que Saint-Cuthbert avait été éliminé et qu'il restait Saint-Norbert qui était sur la voie d'évitement. Donc, ils nous ont garoché ça en pleine face, disant que le nouveau poste serait dans un genre de quadrilatère de 1,5 km par 6 km sur notre territoire. Donc, disons, c'était vraiment une bombe, puis on savait plus trop quoi dire.
Vous avez vraiment reçu ça, comme vous venez de le dire, là, comme une bombe. Pourquoi?
Ben, je ne sais pas. Ça fait un an et demi, deux ans qu'ils disent qu'ils vont avoir un poste soit A1 ou A2. A1 qui était Saint-Norbert, A2 qui était Saint-Cuthbert. Mais là, selon moi, Saint-Cuthbert a fait des pressions, donc ils ont mis Saint-Cuthbert, ils l'ont rayé complètement selon ce qu'ils m'ont dit. Et puis que A1, je sais que la mairesse a fait également des pressions, et puis ils l'ont mis sur la voie d'évitement. Et que maintenant, c'était rendu sur notre territoire dans un quadrilatère beaucoup plus petit.
Il y a une raison particulière pourquoi vous vous opposeriez à ce projet-là?
Mais la raison particulière, c'est bien simple, c'est que là, ils veulent nous mettre ça à un endroit donné. Oui, on rapetissait la grandeur du poste de distribution, qui était à l'origine 1 km par 1 km. Maintenant, c'est rendu de 750 mètres par 500 mètres. Si vous prenez ce carré-là, 750 mètres par 500 mètres, et vous mettez ça dans 1,5 km par 6 km sur notre territoire, ça peut être à bien des endroits, puis c'est une chose qu'on voudrait pas avoir. Ce genre de poste de distribution-là, c'est éclairé 24 heures sur 24. C'est comme si on mettrait la ville de Montréal à côté de chez nous à la semaine longue et à l'année longue. Donc, personne va accepter ça.
Ça peut être très dérangeant pour vos citoyens, c'est ça?
Excessivement dérangeant. C'est le genre de choses qui devrait être localisées dans un bois, complètement à l'extérieur des périmètres urbains. Vous savez, nous autres, les municipalités, il faut penser pas 10 ans à l'avance, il faut penser 100 ans à l'avance. On a des projets futurs, puis l'endroit qu'ils nous ont proposé, c'était complètement aberrant.
Vous avez, je pense, survolé un tracé potentiel en avion vendredi, si mes informations sont exactes. Est-ce que c'est parce que vous vouliez voir s'il y avait des risques d'expropriation?
Ah, vous avez des bonnes informations. Disons, oui, j'ai survolé tout le territoire au complet avec un de mes amis. J'ai la chance d'avoir un ami qui a un hélicoptère. et puis on pouvait faire du sur place. Et puis j'ai été voir à différents endroits la topographie des terrains, les endroits possibles où ça pourrait être. Et puis j'ai noté à quelques endroits que ça pourrait être. Donc j'ai hâte de retravailler avec Hydro-Québec, leur pointer tous ces petits détails-là.
Donc, armé d'un plan, là, vous avez pu identifier des endroits qui seraient critiques ou qui seraient pas souhaitables.
Oui, effectivement. On a analysé tout ça. On regardait les zones humides, les ruisseaux, les rivières, où pouvait passer la future ligne qui s'en allait direction sud et supposément direction nord. Pour celle direction nord, je leur ai proposé à Hydro-Québec lors de notre rencontre. Pourquoi la nouvelle ligne va s'en venir? Elle va longer la ligne qui a été faite à Saint-Michel-des-Saints il y a 10 ans, qui appelle Achoum-Machouam, je crois. Je leur ai dit, pourquoi vous partez pas de cette ligne-là? Au lieu de descendre ça chez nous, vous la continuez pas puis vous l'amenez pas au poste Jean-Jacques Archambault à Sainte-Julienne. Ils ont comme eu un sourire, ils m'ont quasiment dit oui. Donc, je vois que leur projet est comme bâclé. Il manque beaucoup de professionnalistes et j'ai très hâte de discuter avec eux autres.
Maintenant, votre prochaine étape à vous, ça va être d'informer vos citoyens ou du moins de faire peut-être des réunions d'information afin de prendre une position dans le dossier.
Oui, effectivement. Depuis qu'ils ont parlé du projet depuis 2 ans, ils ont fait plusieurs séances d'information avec les citoyens, avec nous directement, et puis ça a tout le temps viré en rond à ce que je peux voir aujourd'hui, parce que là, ça a totalement changé leur projet. Là, maintenant, ils nous garochent ça dans notre cour, et puis après ça, faut dire oui, en dedans de 3 mois, c'est complètement aberrant. Oui, on va faire des rencontres citoyens. Oui, on a demandé à Hydro-Québec d'être présent à nos séances de conseil, car on ne veut pas que nos citoyens commencent à crier après nous autres pour rien, car on n'est pas le porteur de projet.
Vous semblez vraiment croire que tout est arrangé d'avance. Vous semblez, d'après vos propos, là, on dirait que c'est attaché le dossier.
À ce qu'on a pu recevoir comme info lundi passé et jeudi dernier, oui, vraiment, je crois que quelque chose est arrangé d'avance. Mais je vous le dis, on va faire du possible qu'on peut faire pour vraiment bloquer ce projet-là sur notre territoire.
Ou en partie.
Donc, vous allez peut-être faire des actions comme celle de Saint-Norbert, là, avec des affiches un peu partout sur le territoire.
Oui, effectivement, ce genre d'affiches-là. Après ça, on va s'allier de l'UPA, on va s'allier des ministres. On va vraiment, comme on dit, brasser beaucoup de poussière pour arriver à un bon résultat pour nos citoyens.
Est-ce qu'il y aurait un tracé ou un projet qui serait acceptable pour Saint-Gabriel-de-Brandon?
On a, mon copain et moi, en hélicoptère, samedi dernier, trouvé 2 endroits qui seraient vraiment, je crois, la meilleure solution. Mais pour cela, il faut vraiment s'asseoir avec Hydro-Québec et avoir leur consentement. Et vraiment voir si c'est vraiment décidé d'avance.
La suite des choses bientôt?
Oui, très bientôt. On va faire des consultations. Puis s'il y a lieu, on va également envoyer un CITAM qu'on appelle. C'est notre système d'information électronique à tous les citoyens pour vraiment les informer du projet en question.
On n'a pas fini d'en entendre parler, mesdames, messieurs, de ce dossier-là. C'est drôle parce que dimanche, hier, les gens d'Hydro-Québec me disaient qu'ils étaient à l'écoute des citoyens, tout ça. Et là, aujourd'hui, Mario Frigon, qui est en beau joie-le-vert, faut le dire, faut le mentionner, qui dit qu'il n'a pas été consulté. Est-ce que c'est pas ça, la consultation d'Hydro-Québec? Il arrive chez vous, il vous montre un plan en disant « On vous consulte, voici les résultats. » Je sais pas. J'ai des doutes, mais je me dis que M. Frigon était vraiment pas content. Et c'est un dossier qu'on va suivre, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. D'un maire, on s'en va vers une mairesse, celle de la municipalité de Saint-Jacques. On va parler à Josiane Forêt dans un instant d'un beau petit projet. Hein, un projet intitulé Bernard Landry, premier ministre pour la patrie. Une exposition qui sera présentée à la Maison de la Nouvelle-Acadie. Et ce, du 2 mai au 11 octobre 2026. Tout de suite, de l'autre côté des publicités. Restez là.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Didas-des-Panneurs-des-Lacs,
à Saint-Angèle-de-Prémont, épicerie Jacques Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marilou, à Saint-Alexis-des-Monts, dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Ici Mélanie Joly. Dans la prochaine élection partielle fédérale à Terrebonne, vous aurez un choix important à faire. Face à un monde plus instable, Mark Carney et notre nouveau gouvernement libéral, on se bat pour protéger notre économie et notre avenir. Avec notre candidate libérale Tatiana Auguste, Terrebonne a une voix forte à la table des décisions. Le travail vient de commencer, alors on continue ensemble à bâtir un Québec et un Canada plus fort.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
Envie de manger un bon repas dans une ambiance décontractée? Le CA Resto Traiteur au centre-ville de Joliette propose une cuisine authentique mettant en vedette les saveurs lanaudoises et des produits frais. Découvrez le menu midi unique à toutes les semaines ou encore le menu régulier pour dîner ou souper. Le CA Resto Traiteur offre aussi son service de traiteur personnalisé pour toute occasion. Mariage, réunion d'affaires, anniversaire, corporatif et bien plus. Informations et réservations au 450-394-50 80. Le CA Resto Traiteur, 434 Boulevard Monceau à Joliette.
Voyons, c'est quoi ce bruit-là?
Quoi?
C'est-tu dangereux?
Ah, non, c'est normal. Je viens juste de partir le lave-vaisselle.
Oh!
Vous êtes vraiment dû pour changer vos électroménagers? CFNJ et Ameublement SJ Dion vous offrent l'occasion parfaite pour ça. Allez vous inscrire à cfnj.net et dites-nous quelle pièce chez vous mérite de la nouveauté et pourquoi. Meubles, matelas, électroménagers, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Du lundi au vendredi à 8h15, l'équipe de Lanaudière AM appelle une personne qui devient finaliste pour le tirage du 11 avril à 16h. 2 500 $ à dépenser chez Ameublement SJ Dion.
Dis, on s'inscrit?
Concours réservé aux membres. Pour les détails du concours ou pour devenir membre, visitez cfnj.net.
CFNJ. Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est Lanaudière PM avec Michel Arnois. Lanaudière PM. Culturel.
Je l'ai mentionné, on va parler à la mairesse de Saint-Jacques, Josiane Forêt. Bonjour, Mme Forêt.
Bonjour, vous allez bien?
Absolument. Écoutez, à la suite de la commémoration de M. Landry, marquée par l'inauguration de l'espace Bernard Landry au mois d'août 2024, et dans le cadre du 250e anniversaire de votre municipalité, il y a le Conseil qui estimait qu'une exposition réalisée en collaboration avec la Société du patrimoine politique du Québec, eh bien ça constituait un bel ajout pour poursuivre la mise en valeur de cet hommage lors de l'exposition 2026. Et vous nous avez concocté quelque chose d'assez bien, non?
Oui, exactement. C'est un des responsables qui est venu voir l'exposition, des responsables de la Société du patrimoine politique du Québec, qui est venu voir notre parc, puis il nous a parlé d'une exposition qui pourrait être possible. Donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas le faire quand ça va être le 25e anniversaire. Donc, comme on le sait, M. Bernard Landry était premier ministre du Québec après du 8 mars 2001 jusqu'au 29 avril 2003. Donc, c'est sa 25e anniversaire. Donc, c'est un bon moment cette année. Et puis, l'exposition s'intitule Bernard Landry, premier ministre pour la patrie, mais d'abord et avant tout, c'est de Saint-Jacques à Québec, Bernard Landry, premier ministre pour la patrie. Je crois que ça l'explique bien tout le cheminement qu'il a fait. Donc, nous, on est fiers, comme c'est un natif de Saint-Jacques, c'était un Acadien, et puis il s'est rendu premier ministre du Québec, donc c'est toute une fierté. Fait qu'avoir cette exposition-là dans la maison de la Nouvelle-Acadie, je pense que c'était tout à fait bien mis.
Bernard Landry, qui a jamais renié ses origines et qui est important pour la population de Saint-Jacques, rappelez-moi.
Oui, comme on le sait, avoir un premier ministre, c'est important. Puis quand on avait demandé aux gens lors du 250e, c'était en 2024, donc l'année précédente, on avait demandé aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient voir pour Saint-Jacques pendant le 250e. Souvent, les gens demandaient un hommage à Bernard Landry, de se souvenir de Bernard Landry, parce que on veut que la population à venir se souvienne que M. Bernard Landry venait de Saint-Jacques. C'est qu'on avait notre parc des cultures qui, depuis, comme vous l'avez dit tantôt, depuis 2024, est devenu le parc des cultures Bernard Landry. Fait que je pense que c'est un bon moyen de se souvenir de M. Bernard Landry quand un parc de cette envergure porte son nom. Et puis les gens vont pouvoir venir à la maison de la Nouvelle-Acadie pour voir l'exposition. Donc les gens qui le connaissent bien vont apprécier l'exposition. Puis les gens qui veulent en connaître davantage, je pense que c'est un bon moment. Puis souvent on cherche des activités à faire dans la période estivale. Fait que je pense que c'est un bon moment d'être touriste chez nous parce que le La maison de la Nouvelle-Acadie est adjacente au parc, fait que c'est un bon moyen de s'imprégner de l'Acadie en venant voir l'exposition, puis ensuite en allant au parc.
Moi, je sais pas.
Il y a l'espace. Oui, allez-y.
Moi, je sais pas, mais j'ai le goût de dire aux gens, dans tout Lanaudière, si vous avez jamais été voir le parc à Saint-Jacques, il faut absolument, c'est un détour obligé, parce que c'est magnifique, il y a des sculptures acadiennes, il y a des arbres, des endroits pour pique-niquer, c'est magnifique, là. C'est un incontournable, il faut le mentionner.
C'est un incontournable, c'est notre petit trésor caché parce que c'est quand même derrière l'église. Fait que en étant en entrevue avec vous, je vais pouvoir en parler davantage. Donc des fois, c'est un petit peu difficile à trouver, mais c'est vraiment derrière l'église. Donc si vous voyez l'église, vous allez en arrière et puis le parc est là. Comme vous le dites, c'est vraiment un parc qui est dédié aux Acadiens. Fait qu'avoir le nom de Bernard Landry, c'était vraiment important parce qu'on a aussi à l'intérieur du parc la place Bernard Landry. Donc là, on peut voir, on a fait faire un buste et puis le drapeau du Québec est là en permanence avec un banc. Donc les gens peuvent s'asseoir. Vous l'avez dit, il y a de nombreuses statues aussi. Fait que c'est facile à combiner. Vous allez voir l'exposition, prenez une petite marche derrière l'église et puis après ça, vous allez voir le parc. C'est quand même beaucoup de statues qui expliquent tout ce qu'on peut savoir sur les Acadiens, qu'on parle là, au niveau du grand dérangement, d'Évangeline, de l'exil, de la Marie-Stella, fait que tout ce que les Acadiens ont vécu. Et puis, on a quand même le monument qui est l'Odyssée des Acadiens pour commencer. Alors, les gens qui veulent en savoir davantage, des fois, on a des origines acadiennes, on ne sait pas exactement par où commencer. Je pense que venir faire un petit tour à Saint-Jacques en venant voir l'exposition, puis ensuite en allant visiter notre parc, je pense que c'est un bon moment de redécouvrir nos origines.
Et peu importe notre couleur politique, il reste que Bernard Landry, moi, j'ai toujours admiré son érudition. C'est un gars qui avait un français extraordinaire. Vous êtes pas mal non plus, Mme Forest, je dois vous le dire. Bravo.
Et alors, puis Bernard Landry, il était le premier ministre de tous les Québécois. Vous parlez de l'étiquette politique, exactement. Là, c'était pour lui, c'était important le français. C'était le représentant des Québécois. Quand les gens voulaient s'adresser à lui, avaient besoin de quoi que ce soit, il est toujours venu à Saint-Jacques, il rencontrait les personnes. Ça a été quelqu'un qui était près de nous, au niveau, à Saint-Jacques. Là, les gens qui le connaissent, c'est ce qu'ils nous disent. Là, on a toujours été capable de le rencontrer, de lui parler. Les gens s'en souviennent très, très bien.
Il faut que je vous arrête maintenant. Déjà, tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Mme la mairesse.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Et décidément, hein, ça c'est la journée des maires et mairesses. Steve Mador, le maire de Saint-Sulpice, eh bien, sa municipalité va résilier son entente de desserte policière avec la ville de l'Assomption. On sait pourquoi, parce qu'un processus est amorcé pour fusionner les services de police de Repentigny et l'Assomption. Et ce dernier qui couvre le territoire de Saint-Sulpice. Et Régent Turgeon a demandé des explications au maire de Saint-Sulpice, Steve Mador.
Monsieur Mador, peut-être nous expliquer le contexte dans lequel, justement, vous avez fait cette fin de semaine-ci une consultation publique sur l'avenir du service policier à Saint-Sulpice.
Bien entendu, en fait, au niveau de notre desserte, on finissait l'entente qu'on avait de 10 ans. Et pour pouvoir la renouveler, cette entente-là, pour pouvoir la renégocier, malheureusement, la façon qu'elle est faite, c'est qu'il faut y mettre fin. Donc, il faut aviser la ville de l'Assomption, avec qui on fait affaire depuis 25 ans. Et puis, je tiens à le préciser, là, ce n'est pas le but de faire un procès contre la ville de l'Assomption ou le corps de police de l'Assomption. Effectivement, c'est un très bon corps de police. On a toujours été bien servi, puis on a une très belle entente avec la ville de l'Assomption. Par contre, c'est le processus que l'entente prévoit pour pouvoir la renégocier, de pouvoir faire une consultation publique de deux rencontres et l'envoyer au ministère de la Sécurité par la suite avec les commentaires et d'aviser aussi la ville de l'Assomption 9 mois avant, qu'on souhaite mettre un fin à cette entente-là, dans le but d'en renégocier une et de pouvoir regarder d'autres options, puis parce que vous comprendrez que pour tous les corps de police, pour toutes les municipalités au Québec, c'est la police représente quand même 20% des budgets des municipalités.
Ça vous coûtait combien justement à Saint-Sulpice pour avoir les policiers de l'Assomption?
Oui, on approche le million là, cette année, non? Je vous dirais, là, on est tout près du million. Donc, pour une municipalité comme nous, avec un budget de 5 millions, ben on est dans le 20%. Et Saint-Sulpice, tout comme l'Assomption, ben en tout cas, surtout, je vous dirais Saint-Sulpice, on a atteint quand même 100% de la capacité de pouvoir développer Saint-Sulpice. Donc, le reste, c'est des terres agricoles. On est 95% agricole. Donc, pour nous, des revenus supplémentaires en disant qu'on va faire du renouvellement ou du redéveloppement, c'est impossible pour nous. Donc, le seul moyen, c'est d'essayer de regarder pour voir si on est capable de pouvoir faire des économies à l'intérieur des différentes ententes qu'on a. Et celle-ci terminait à la fin de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite la revisiter.
On pourrait donc penser qu'au 1er janvier 2027, Saint-Sulpice pourrait s'embarquer dans une entente de 2 ans avec la municipalité de l'Assomption pour un service policier.
Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir 2 ans supplémentaires, renégocier avec la ville de l'Assomption. D'ici là, on va voir. On a entamé aussi, on est en train d'entamer une étude avec qui a été les prises la semaine dernière avec au Conseil des maires, au niveau de la MRC, de faire une étude sur de la faisabilité, de voir s'il y a possibilité de d'avoir des économies et d'être capable peut-être de mutualiser certains services. Donc, ça va faire partie de cette étude-là. En attendant, nous, on se doit quand même de continuer puis s'assurer que nos citoyens ont les meilleurs services.
Et les résultats de cette étude-là pourraient tomber durant les 2 ans de la prochaine entente que vous auriez avec l'Assomption?
Ben, tout à fait. Par contre, s'il y avait des changements à avoir, ça prendrait encore plusieurs mois pour le faire. Donc, d'ajouter 2 ans à l'entente qui finit à la fin de l'année, c'est raisonnable, selon nous, même s'il y avait étude puis qu'elle serait intéressante, on va se rendre probablement à l'intérieur à la fin de ces 2 ans supplémentaires-là qu'on souhaite.
On doit comprendre qu'il n'y aura pas de retour des services de la Sûreté du Québec de par la loi. Est-ce qu'on pourrait regarder du côté de Repenti?
Bien, toutes les options sont valides, mais je vous dirais que pour l'instant, la meilleure option, comme je vous ai dit, on a toujours été bien desservis par l'Assomption. L'objectif, c'est d'être capable de pouvoir regarder avec l'Assomption si on est capable de faire certaines économies, puis en même temps, bien, de pouvoir renouveler d'ici 2 ans. Dans 3 ans, c'est-à-dire dans 2 ans et demi, une fois que l'entente est finie à la fin du mois de l'année et qu'on a un autre 2 ans, ben là, ça sera de voir effectivement c'est quoi les meilleures options pour nous.
On doit comprendre que les négociations avec l'Assomption sont déjà amorcées et que ça va bien.
Oui, tout à fait. En parallèle, on a déjà fait plusieurs rencontres. On a des pourparlers avec l'Assomption qui vont très bien.
Au-delà des coûts, M. Mador, est-ce qu'il y a des services qu'on aimerait peut-être ajouter à Saint-Sulpice qu'on n'a pas présentement? Déjà, on parlait tantôt d'anti-émeute et patati et patata. Est-ce que c'est quelque chose qui est plausible?
Malheureusement, je crois pas qu'on va avoir des émeutes dans les prochaines années à Saint-Sulpice. Mais par contre, comme on fait partie de la CMM, c'est une obligation pour les municipalités qui font partie de la CMM d'avoir un minimum de grade 2 qui comporte, entre autres, l'anti-émeute, le service d'empreinte, les enquêtes, etc. Donc, c'est sur ces éléments-là que on peut malheureusement pas se défaire, mais c'est des choses qui est à regarder pour voir.
Puis on doit comprendre qu'en négociant avec l'Assomption une nouvelle entente de 2 ans, on partirait d'égal à égal aussi, là, ce qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de faire depuis 10 ans que l'entente était là.
Bien, quand il y a une entente qui a été négociée depuis 10 ans puis que c'est déjà déterminé les augmentations qu'il doit y avoir, bien, à ce moment-là, c'est difficile de pouvoir se rasseoir. Par contre, on a toujours eu une belle écoute quand même de l'Assomption. Malheureusement, l'entente étant ainsi faite, bien, on fait le processus qui est prévu à l'entente pour pouvoir s'asseoir.
Si vous avez une nouvelle entente cette année avec l'Assomption, est-ce qu'on revient la soumettre à vos commettants, vos résidents?
Ben, écoutez, mais qu'on soit rendu au bout de nos négociations puis regarder toutes les options. Mais le conseil municipal va faire le choix aussi de la meilleure entente. Puis, bien entendu, on va venir la présenter à nos citoyens.
Comme le disait Jacques Plante, à micro fermé hier, ça va faire plus de tickets de police. Ça va faire plus de contraventions pour les gens. C'est bien, Jacques Plante. Dans un instant, on va s'informer avec le collègue Pierre Jubainville, qui est dans une forme incroyable.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Eh bien, c'est quand même encore pas si mal. Ça circule quand même assez bien. Quarantaine vers Repentigny, il y a quelques petits ralentissements, entre autres, encore à Tricentenaire. À part la suite, vous prenez de la vitesse. Vous allez encore ralentir à hauteur du pont d'étagement du CN. Et également du côté de la hauteur du club de golf de l'île de Montréal. Par la suite, la traversée se fait bien. Pour ce qui est du pont, le pont Payeur de la 25 pour la Rive-Nord, ben, ça circule encore bien. Petit ralentissement, jonction 25-440. Par la suite, vous poursuivez au vert, là, relativement. Pour la 640, ben, comme d'habitude, là, ça ralentit à l'approche de la 40 et de la 640.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Chez nous, chaque membre de notre équipe est totalement dédié à vous offrir la meilleure expérience possible et un service personnalisé. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette, là où l'expertise rencontre la passion. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
ADA recrute et la ruche s'agrandit. Chez Aide à domicile d'Autré, on croit qu'une communauté forte, c'est comme une ruche. Chacun a son rôle et ensemble, on fait une vraie différence pour les aînés de notre MRC. Nous embauchons actuellement des aides à domicile pour l'entretien ménager. De belles conditions, des horaires vraiment flexibles et surtout, beaucoup de reconnaissance. Tu es une personne attentionnée et tu veux un emploi qui a du sens? Joins-toi à une équipe colorée et inspirante. 450-404-2219 poste 3 ou visite leur page Facebook.
Ici Mélanie Joly. Dans la prochaine élection partielle fédérale à Terrebonne, vous aurez un choix important à faire. Face à un monde plus instable, Mark Carney et notre nouveau gouvernement libéral, on se bat pour protéger notre économie et notre avenir. Avec notre candidate libérale Tatiana Auguste, Terrebonne a une voix forte à la table des décisions. Le travail vient de commencer, alors on continue ensemble à bâtir un Québec et un Canada plus fort.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Saviez-vous que le retrait d'une prothèse partielle pendant une certaine période de temps peut provoquer un déplacement de vos dents naturelles restantes? C'est ce qu'on appelle le phénomène de migration. Il est donc probable que lorsque vous essayerez de remettre votre partielle en bouche, celui-ci ne prendra plus sa position, ce qui signifie qu'il devra être changé. Afin d'éviter ce problème, si vous enlevez votre partielle, n'attendez pas et allez le faire ajuster.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Yeah, Berthierville! Le nouveau Super C est ouvert! Venez profiter d'une tonne d'économies dès maintenant! En plus des super bons prix, saviez-vous que Super C est reconnu pour le meilleur rapport qualité-prix sur les viandes? Nos super bouchers sont fiers d'assurer la qualité de vos viandes préférées et coupent avec soin les viandes directement en magasin. Hey, c'est super, Super C! Détail au superc.ca.
En manchette, aujourd'hui, le patron d'Air Canada quittera ses fonctions. Le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon dénonce Hydro-Québec. Et fin de la desserte policière à Saint-Sulpice. J'espère que vous l'aimez le thème parce qu'on l'a entendu pas mal. Ça, c'est des erreurs techniques. Ça arrive, mesdames et messieurs. Je sais que vous allez être indulgents envers votre humble serviteur. Mais c'est un bon thème, finalement. Bonjour, Pierre Jouinville. Attendez, je vais ouvrir votre micro. Bon, ça irait mieux.
Ça va aller mieux, oui.
Vous savez, quand ça commence, ça finit plus, ces affaires-là. Comment allez-vous?
C'est excellent, le thème, oui.
Il est bon, hein? Oui, oui.
Je vais bien.
C'est d'ailleurs vous qui jouez de la musique là-dessus, oui, c'est ça.
Oui.
Vous allez nous parler de Michael Rousseau, qui a compris le message.
Oui, une semaine après l'accident qui a coûté la vie à deux pilotes à New York, et des excuses en anglais seulement, Monsieur Rousseau nous apprend qu'il va quitter au troisième trimestre de Montréal à Ottawa. Sans doute, son départ fait l'unanimité.
Je pense que c'est ça qui restait à faire.
La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, résume parfaitement la vague de commentaires. Il y a une semaine, Michael Rousseau apportait son support aux proches de la victime de l'accident d'avion de New York dans une vidéo uniquement en anglais. Le tollé créé aura eu raison de son poste, selon la ministre Mélanie Joly.
Les Québécois et les Canadiens ont lancé un message.
Son collègue Joël Lightbourne estime qu'il ne faut pas perdre de vue le pourquoi des événements.
Moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les familles des deux victimes.
De l'autre côté de la Chambre, au Bloc québécois, le chef Yves-François Blanchet et le député Jean-Denis Garon s'insurgent du laisser-aller du gouvernement libéral.
On a essayé avec lui, comme avec la gouverneure générale, de leur dire, bien, vous l'apprendrez qu'on s'est planté lamentablement dans les deux cas.
Bien, bon débarras. Ça fait 5 ans que ça dure. Il n'y a jamais un ministre fédéral qui a été ému par ça. Et aujourd'hui, ils prennent le mérite.
Air Canada assure que le français sera maintenant un critère d'embauche, ce qui sourit au premier ministre Mark Carney.
On a des responsabilités plus larges, comme un dirigeant d'une organisation.
Annie Guillemette, pour Cogeco Nouvelles.
Vous allez nous parler d'un sondage.
Un sondage tout chaud. Sondage pour QC125, sondage léger. On apprend que péquistes et libéraux se retrouvent nez à nez.
C'est pas sérieux?
Oui, c'est une première, 33-33.
C'est assez intéressant.
Oui, ça pourrait ouvrir la voie à un gouvernement minoritaire. On va attendre, mais quand même, il reste encore beaucoup de temps. Les conservateurs, eux, auraient 15 % La CAQ et Québec solidaire, 9 % La CAQ continue de reculer de 4 points. Il semble bien que la course à la direction en ait peu d'influence sur les résultats.
On va en parler d'ailleurs, la course à la direction de la CAQ avec Pierre Paquette un peu plus tard dans l'émission. On va vous parler maintenant du maire de Saint-Gabriel, on en a parlé tantôt, qui fustige Hydro-Québec.
Oui, Mario Frigon est en furie après Hydro-Québec. La société d'État veut maintenant implanter son fameux poste de transformation qui a été tassé à Saint-Cuthbert. M. Frigon affirme qu'Hydro ment et qu'aucune consultation n'a été menée et le projet retenu sera très dérangeant, dit-il.
Et ça peut être à bien des endroits, puis c'est une chose qu'on voudrait pas avoir. Ce genre de poste de distribution-là, c'est éclairé 24 heures sur 24. C'est comme si on mettrait la ville de Montréal à côté de chez nous à la semaine longue et à l'année longue. Donc, personne va accepter ça. C'est le genre de choses qui devrait être localisé dans un bois complètement à l'extérieur des périmètres urbains. Vous savez, nous autres, les municipalités, il faut penser pas 10 ans à l'avance, il faut penser 100 ans à l'avance. On a des projets futurs, puis l'endroit qu'ils nous ont proposé, c'était complètement aberrant.
Alors voilà, il n'est pas content.
Pas du tout.
Écoutez, on rebrasse les cartes policières à Saint-Sulpice.
Oui, à Saint-Sulpice, qui va résilier son entente de desserte policière avec l'Assomption. On sait qu'un processus est amorcé en vue de fusionner les services de Repentigny et de l'Assomption, ce dernier qui couvre le territoire de Saint-Sulpice. L'entente doit prendre fin le 31 décembre, mais pour le maire Steve Mondor, il souhaite déjà un nouvel accord de 2 ans, le temps qu'on statue au sujet de la fusion.
Au niveau de notre desserte, on finissait l'entente qu'on avait de 10 ans. Et pour pouvoir la renouveler, cette entente-là, pour pouvoir la renégocier, malheureusement, la façon qu'elle est faite, c'est qu'il faut y mettre fin. Donc, il faut aviser la ville de l'Assomption. Par contre, c'est le processus que l'entente prévoit pour pouvoir la renégocier, de pouvoir faire une consultation publique de 2 rencontres et l'envoyer au ministère de la Sécurité par la suite avec les commentaires.
Vous avez compris que c'était le maire Steve Mador.
Et non Mondor.
Non, mais peut-être famille.
Hein? Oui, peut-être.
C'est bien des Mondors dans ce coin-là. Oui, absolument. Oui. Il y a une enquête de la santé publique qui est réclamée sur la violence à l'école.
Oui, dans les écoles tenues sous le thème « As-tu le droit? » force est de constater qu'il faut aller au-delà des slogans. Les interventions étaient axées surtout sur les relations entre élèves, mais beaucoup d'enseignants subissent aussi la violence. C'est pourquoi la Fédération des syndicats de l'enseignement réclame une enquête de santé publique. Le syndicat de l'enseignement du Lanaudière en fait partie. On écoute son président, Mathieu Lessard.
Ben, on n'a pas le choix minimalement là, de considérer l'intérêt majeur et primordial des élèves, petits comme grands, et du personnel qui œuvre auprès de ceux-ci. Parce que on a eu beau adopter des lois, adopter des slogans, mettre sur pied des semaines, il faut prendre un pas de recul parce que force est de constater que quand ça fonctionne pas, là, ben il faut prendre un petit pas de côté là, puis analyser ce qu'on a fait puis essayer de comprendre. Parce que sinon, ben, on va continuer à répéter des stratégies inefficaces.
Métro est privé de ses employés des fruits et légumes. Qu'est-ce que c'est ça?
Et ça pourrait
ils sont perdus dans le rayon des carottes.
Non, pas.
Ils sont cuits.
Ils sont dehors.
Oui, c'est ça.
C'est une grève des 550 employés du centre de distribution de Laval. Et ça risque, Michel, de compliquer les emplettes en fin de semaine. Le conflit affectera donc l'approvisionnement des 1000 magasins du groupe Métro au Québec.
Il y a des têtes de brocolis qui seront pas où se placer.
Et de violon.
Oui, une tête de violon, oui. C'est un peu amer. Les pharmaciens pourraient mettre fin à leur moyen de pression.
Oui, le ministre Boulet songe à retirer l'amendement qu'il a adopté dans un projet de loi qui permettait de plafonner les honoraires facturés par les pharmaciens aux assureurs privés. Québec négocie actuellement avec les pharmaciens pour en arriver à un nouveau cadre de rémunération et les pharmaciens ont quitté la table de négociation vendredi. Certains ont commencé même à réduire les heures d'ouverture en guise de moyen de pression.
On va y aller avec la dernière information, Pierre, la saison des sucres qui débute lentement.
Ben, il n'a pas fait très, très chaud depuis le début du mois de mars, n'est-ce pas?
En avril, ne te découvre pas de...
C'est aujourd'hui que je pense qu'il fait le plus chaud, mais enfin.
Oui.
Le porte-parole des acériculteurs de la Lanaudière, Guy Brault, indique que 10 à 15% des récoltes ont été réalisées. La réserve nationale est vide, mais il n'y aura pas de rupture de stock. Il se pourrait cependant que certains en profitent pour augmenter les prix.
Pour les producteurs, ceux qui font la matière première, il n'y aura pas de changement de prix parce qu'on est lié avec une convention. Qu'est-ce qui est des deux autres paliers qui suivent, les transformateurs et les détaillants, ben, il y a des fois qui profitent de l'occasion pour dire, ben, une petite année de production, on augmente les prix. Ils profitent de cette occasion-là, comme un petit peu qu'est-ce qu'on vit dans le pétrole, là, présentement, là.
Mais bien, merci beaucoup, Pierre. Je m'invite. J'imagine qu'il y a d'autres nouvelles ailleurs.
À CFNJ.net.
Ah, mais là, vous m'en direz tant. Merci.
Bye.
Au 99.1-88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ
98.9 PM, éducation.
Eh bien, on va revenir sur le projet du centre d'éducation aux adultes qui sera construit sur le site de l'école secondaire Jean-Baptiste Meilleur à Repentigny. C'est un projet qui a été annoncé la semaine dernière en l'absence des médias. C'est particulier, ça. Ils font un bel événement, mais ils n'invitent pas de médias. Comment voulez-vous qu'on le sache? C'est devenu essentiel au fil des ans, un projet comme ça pour les adultes. Et selon le directeur général par intérim du Centre de services scolaires des affluents, Patrick Capolupo, avec qui notre collègue Régent Turgeon a discuté.
Capolupo, là, une annonce majeure pour Repentigny. À Repentigny, on va construire un centre de formation générale des adultes. Il y a de quoi se réjouir, là.
Ah, oh, absolument. D'ailleurs, c'est une excellente nouvelle qu'on attendait avec beaucoup, beaucoup d'impatience. C'est un centre qui va être construit au coin de la rue du boulevard Iberville et de la rue Jean-Baptiste Meilleur, où il y a un gros carré d'asphalte, une école sur deux étages. On l'attendait. Pourquoi? Parce qu'elle doit libérer l'LC présentement occupée par l'éducation des adultes à la JBM. Parce que la JBM a besoin de place de façon importante.
On aurait été patient, on aurait aimé ça l'avoir plus tôt, ce fameux centre.
Ah, oui, on aurait aimé ça l'avoir plus tôt, mais vous savez, c'est aussi de bonne guerre. Le ministère s'assure vraiment que les besoins sont là. Est-ce que toutes les méthodes alternatives de placer des élèves ont été regardées, calculées avant de dépenser des sous pour dire on va faire dans une nouvelle construction. Mais tout ça, ça prend du temps. On le fait en collaboration avec le ministère de l'Éducation et ils en sont venus à la même conclusion que nous. Il fallait construire un centre. Et ils ont agi avec efficacité, je dois dire.
Et diligence, on peut même rajouter, un centre pouvant accueillir jusqu'à 725 élèves, 36 classes, 6 classes spécialisées, mais il y a plus que ça.
Oui, certainement, il y a plus que ça, parce que vous savez, l'éducation des adultes fait de la francisation. Ils sont ouverts le soir. Il y a la formation à distance. Il y a aussi la formation pour les élèves handicapés qui ont plus de 18 ou 21 ans. Vous savez, lorsque nos écoles secondaires ne s'occupent plus des élèves handicapés, les élèves H, qu'on dit dans notre jargon, après 18 ou 21 ans, ben l'endroit où ils peuvent aller, c'est l'éducation des adultes. Donc, on a des activités d'apprentissage, on a des activités de stage, de placement en entreprise. Donc, tout ça va se faire dans notre nouveau centre, un centre qui va être à leur couleur. Et pour une des très, très rares fois au Québec, là, c'est presque un scoop qu'on a à Repentigny, d'avoir un centre d'éducation des adultes bâti pour la clientèle adulte.
On parle d'une formation qui sera donnée à temps plein, à temps partiel, si je m'inscris pour aller là, là.
Absolument tout ça compris, à temps plein, à temps partiel, de façon en ligne aussi, ce qu'on appelle la formation à distance, on a où les gens peuvent terminer leur secondaire en faisant la grande partie de leur cours à la maison et en venant à l'école lorsqu'ils ont besoin de rencontrer un enseignant. Alors, tout ça va se faire dans ce centre d'éducation des adultes.
Il y a donc de la diplomation rattachée à cette formation?
Absolument. Présentement, cette diplomation, on la donne ici. Vous savez, la diplomation là, de l'éducation des adultes pour le Centre de services scolaires des affluents, ça représente environ entre 7 et 9 % dépendant des années de toute la diplomation que l'on a. Donc, c'est vraiment important, ce 7 à 9 %-là.
Ces adultes-là sont déjà sur le marché du travail, vont venir chercher, comme vous dites, peut-être un secondaire 5 ou une spécialité. Qui serait la clientèle idéale, là?
Alors, c'est une excellente question, M. Turgeon. D'abord, la clientèle jeune, oui, on en a encore. Des jeunes qui ont eu un parcours peut-être un peu plus difficile au secondaire et qui doivent finir leur secondaire parce que avoir le DES, c'est quand même important au Québec pour la recherche d'emploi par la suite et pour continuer à d'autres niveaux au cégep et à l'université. Alors, oui, les jeunes qui n'ont pas terminé ou qui ont mal fini leur secondaire peuvent se donner une deuxième chance avec l'éducation des adultes. Mais le message que j'aimerais faire aux citoyens, c'est bien d'encourager nos adultes, parce que les statistiques dans Lanaudière Sud sont alarmantes. Il y a près de 45 000 personnes dans le sud de Lanaudière, près de 12 % de la population qui n'a ni diplôme, ni certification. Alors, le message est de dire, j'encourage ces gens-là à revenir à l'école, revenir dans un centre d'éducation des adultes, que ce soit celui à Terrebonne ou ici, à Repentigny, pour terminer leurs études secondaires puis s'ouvrir des horizons vers plein d'autres formations. Alors, j'encourage les adultes à le faire aussi.
À l'évidence, il y avait un grand besoin de ce côté-là. Lancement prochain des appels d'offres?
Oui, on a déjà commencé à travailler sur le terrain, les dessins des architectes. Alors, on veut avancer rapidement, on espère. On espère très sincèrement être capable d'ouvrir ce centre en 2029, si je ne m'abuse, là, les dernières dates, mais ça va être clarifié avec le temps, mais à peu près en 2029.
On n'a pas avancé de coût pour le fameux centre en question de 2 étages. On dit que c'est pour ne pas influencer le processus d'appel d'offres.
Exactement, c'est précisément ça. Et encore, non seulement ça, c'est que, vous savez, on est dans les balbutiements. Là, on n'a pas fait encore ces appels d'offres-là. On n'a pas encore. Il y a certains détails qu'on doit travailler avec les architectes et les ingénieurs qui vont influencer les coûts. Mais on ne veut pas aller vers un prix, justement, pour essayer d'avoir le prix le plus équitable et le plus bas possible pour nos citoyens.
Alors, au retour de la pause, on parle avec Pierre Paquette. On parle de quoi? On parle de la Coalition Avenir Québec. Hein? Il y a des débats, il y a des petites chicanes qui font pas plaisir aux gens. Le NPD, avec Avey Lewis, un nouveau chef gagnant par 40 000 voix, ben de 40 000 voix, 56 % des suffrages. Et on parlera de la retraite de Michael Rousseau.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou, j'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah-hey! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Fab, c'est du contenu qui fait résonner notre fierté.
Des territoires fabuleux à explorer.
Au Québec, on retrouve 11 nations autochtones qui m'inspirent.
Des humains inspirants à rencontrer.
Les contacts humains, là, c'est la plus belle chose.
Et surtout, des séries originales sur nos passions, nos histoires, nos artistes. Tout pour bien découvrir ce qui fait vibrer chacune de nos régions.
Fabriquer des choses, il y a quelque chose de satisfaisant au point de vue humain.
Fab, le fabuleux de notre culture, de nos humains et de nos territoires.
À regarder dès maintenant sur le web et l'appli de Télé-Québec.
Venez célébrer l'arrivée du printemps à l'érablière Jean-Parent de Saint-Ambroise-de-Kildare. Au menu, jambon, bacon, sirop d'érable, tire sur la neige, ainsi que tous ces délicieux accompagnements qui ont fait la réputation de l'érablière Jean-Parent. Et tout cela à volonté. La grande famille de l'érablière Jean-Parent vous souhaite un sucré bon printemps. Réservation 450-753-3146. Pour plus d'informations, jeanparent.com. Apportez votre boisson. L'érablière Jean-Parent est située au 1571 route 343 à Saint-Ambroise-de-Kildare.
Ici Mélanie Joly. Dans la prochaine élection partielle fédérale à Terrebonne, vous aurez un choix important à faire. Face à un monde plus instable, Mark Carney et notre nouveau gouvernement libéral, on se bat pour protéger notre économie et notre avenir. Avec notre candidate libérale Tatiana Auguste, Terrebonne a une voix forte à la table des décisions. Le travail vient de commencer, alors on continue ensemble à bâtir un Québec et un Canada plus fort.
Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
CFNJ.
40 ans dans l'anneau d'hier.
Au 99.1, 88.9, CFNJ. C'est l'anneau d'hier PM avec Michel Arnois à CFNJ. Voici le commentaire de Pierre Paquette.
Maître Paquette, comment allez-vous en ce beau lundi?
Ça va bien, oui, vous pouvez le dire, un beau lundi, mais il reste le reste de la semaine risque d'être assez humide.
On parlera des Parisiens quand on sera à Paris, mon cher.
Oui, c'est ça.
Écoutez, selon un sondage mené au cours du mois de mars, les intentions de vote pour la coalition Avenir Québec étaient de 17 % lorsque François Legault a annoncé son départ. Eh bien, ça dégringole. Il y a aussi, bon, les débats entre les deux aspirants chefs, Bernard Drinville et Mme Fréchette. Et c'est ça, il semble que les gens n'aiment pas ça. Quand ça se coltaille un peu, ça fait baisser les chiffres pas mal, n'est-ce pas?
Oui, parce qu'en fin de semaine, on voyait un sondage léger là, qui montrait que entre le dernier sondage et celui de la fin de semaine, la coalition Avenir Québec était passée de 13 % à 9 %, c'est-à-dire le même pourcentage d'appui que Québec solidaire. Alors, c'est pour vous dire que ça a beaucoup dégringolé. Et ça, malgré le fait qu'il y a une course au leadership, normalement, ça devrait susciter de l'intérêt. Mais effectivement, je pense que la façon dont la course se produit, particulièrement avec les débats, et le débat de la fin de semaine était peut-être le pire, les gens ont l'impression que c'est plus une histoire de chicane qu'une histoire d'idées. Et puis, ils se sont éloignés de la CAQ. Mais ceci dit, après le vote qui va avoir lieu le 12 avril pour choisir le chef, il se peut très bien qu'il y ait une petite lune de miel, comme on a vu avec M. Milliard pour le Parti libéral du Québec. Mais pour le moment, la course à la chefferie, à la CAQ, a plutôt des effets négatifs sur l'appui que reçoit la CAQ des Québécois et des Québécoises.
Ça pourrait être catastrophique, à votre avis?
Ah ben oui, là, je pense qu'il risque d'être complètement balayé de la carte. D'ailleurs, c'est ce qui est... Même quand... les sondages étaient meilleurs avec M. Legault les prédictions en termes de sièges étaient zéro. Alors, je ne crois pas qu'on passe de 13 % à 9 % il y ait beaucoup plus que zéro siège à prévoir. Mais moi, le débat de la fin de semaine m'a vraiment surpris parce que, quand même, justement, dans une situation difficile comme ça, il me semble que les deux adversaires qui vont prendre un bateau qui coule, auraient dû avoir plus de respect l'un envers l'autre. Alors, par exemple, de voir M. Drainville se faire huer par les partisans de Mme Fréchette, moi, je trouve que c'était un peu hallucinant.
Oui, vraiment, vraiment, vraiment particulier. Pierre, donc, on va passer. Oui.
On parle pas là, de prendre un parti qui était au summum ou vraiment, c'est presque un sacrifice là, qu'on demande à Mme Fréchette et M. Drainville de prendre ce bateau-là pour essayer de le remonter. Donc, il me semble que tout le monde aurait dû être plus ouvert. Et puis, les attaques que M. Drainville a faites, ils étaient, à mon avis, valables parce que effectivement, pour le chemin Roxane, comme pour la situation, l'absence de français dans la déclaration de M. Rousseau, Mme Fréchette a hésité quelques temps. Puis, je pense que c'est sûr qu'après, elle a pris, je dirais, la décision qu'on connaît. Mais, par exemple, le chemin Roxane, au départ, elle n'était pas d'accord de le fermer, alors que M. Legault avait été très clair à cet égard-là. Puis, même chose pour M. Rousseau. Elle a commencé par dire que Air Canada est une entreprise privée, et après, elle s'est révisée. Mais même si M. Drainville avait raison, les explications n'étaient pas faciles à donner non plus, mais le fait qu'il soit hué, moi, je trouve que c'est un peu... ça démontre à quel point la situation est actuellement polarisée. Et c'est dommage parce que je vois pas comment, après le 12 avril, quand la chef ou le chef sera choisi, on va pouvoir recoller les pots cassés, là.
On va y aller rapidement avec du provincial. On va passer à un parti au fédéral, le cinéaste Ivy Lewis, qui a été élu chef du NPD du côté fédéral dimanche, alors que le parti clôturait son congrès à Winnipeg. Il a battu ses rivaux dès le premier tour avec 40 000 voix pour succéder à Jagmeet Singh. C'est intéressant. Il y a quand même beaucoup de travail à faire, non?
Oh oui, beaucoup de travail. Je pense que le NPD sur la scène fédérale, c'est un peu à l'image de la CAQ sur la scène québécoise. M. Lewis vient d'une grande famille de dirigeants politiques du NPD. Son père était chef du NPD Ontario. Son grand-père est un des fondateurs du NPD fédéral. Alors, c'est quelqu'un qui a grandi dans la politique, mais c'est un populiste de gauche. Et je suis pas convaincu que ce type de populisme actuellement soit très très vendeur auprès de l'électorat. On le voit avec Québec solidaire. Alors, je trouve ça un peu risqué.
Mais Pierre, il y avait, M. Lewis, un message pour les Québécois. On va l'écouter.
Okay, mon français n'est peut-être pas parfait. Mais je tiens à vous dire que l'histoire des luttes du Québec brille fort au sein de notre parti. Les Québécois et Québécoises ont soif de vraies solutions progressistes.
Bon, c'est peut-être un télésouffleur, vous me direz, mais il reste, c'est quand même extrêmement en français.
Oui, puis je pense qu'il va sûrement tout faire les efforts, M. Lewis, pour améliorer son français, j'en suis convaincu. Mais ceci dit, il n'est pas plus respectueux des compétences des provinces et des compétences du Québec que le sont, règle générale, le chef du NPD, les chefs du NPD et le NPD. Alors, par exemple, dans les promesses qu'il fait, c'est de plafonner les loyers pour aider les gens. Évidemment, on plafonnerait les augmentations de loyers, sauf que c'est une juridiction des provinces. Alors, je pense qu'on va avoir encore un peu de problème avec les propositions du NPD en termes de respect des compétences entre le Québec et puis le levier fédéral. Moi, je pense que ça va être extrêmement difficile pour lui, là, d'autant plus que le chef du NPD de l'Alberta et de la Saskatchewan ont tout de suite pris leur distance en disant que les propositions qui étaient faites concernant le pétrole et les pipelines étaient contre les intérêts des Albertains et des Saskatchewanais. Alors, donc, il va y avoir beaucoup de travail à faire, effectivement. Et je pense que quand on fait une campagne au leadership au NPD, c'est la même chose à la CAQ ou n'importe quel petit, on s'adresse aux militants. Et les militants du NPD aiment ça, entendre des propositions comme le plafonnement des loyers, des nationalisations de banques ou des trucs comme ça. Mais je pense pas que la population canadienne et québécoise soit rendue là. Alors, il va sûrement ajuster le tir au fil des mois. Et espérons que le NPD va être plus que la conscience du Parlement, mais il va être capable d'être une force d'opposition importante à travers le Canada. À l'exception du Québec, bien entendu, où je pense bien que le Bloc va encore performer cette fois-ci.
Ben merci beaucoup, Pierre Paquette.
Merci, puis à bientôt.
Merci beaucoup. Merci les gens qui ont participé à l'émission aujourd'hui. Pierre Paquette, comme vous venez d'entendre, Mario Frigon, maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, Josiane Forêt, mairesse de Saint-Jacques, Steve Mador, maire de Saint-Sulpice, Pierre Paquette, qu'on vient d'y en parler, Patrick Capolupo, directeur général par intérim, Centre de services scolaires des affluents. Merci à Pierre Jubinville, François Morin, Régent Turgeon. Ici Michel Arnois qui redonne la place à Claude Fournel dès demain. Dans un instant, Nicolas Bellemare, tout en trad, il a même sa ceinture fléchée avec lui. Bonne soirée, mesdames, messieurs.